C'est que la semaine dernière, on a parlé de beaucoup de sujets, on s'est beaucoup devancé. C'est correct, c'était comme ça. Puis en même temps, on tombe, on sort un petit peu là, des sujets de. C'est les jours de la création. Là, on tombe un peu des fois dans des sujets, pas des sujets, mais des versets qui nous incitent à parler des fois d'autres sujets. C'est correct, mais des fois, je vais essayer de pas trop m'étendre parce que ça, je veux pas non plus que ça devienne un cours de doctrine. Puis, de toute façon, je suis pas prêt pour ça, là, mais c'est tout à fait intéressant là, d'en parler. Mais c'est sûr que, comme entre autres la semaine dernière, on a parlé de. Ça peut vite devenir des questions assez profondes, mais c'est bien qu'on en parle, c'est que ça nous fait réfléchir. Là. On a parlé entre autres juste le fait que là, l'être humain est à l'image de Dieu. C'est pas marqué dans le texte ici qu'est-ce que ça veut dire particulièrement. C'est qu'on on essaie d'avoir quelques idées sur qu'est-ce que ça voulait dire. Puis là, après ça, on a parlé d'autres trucs aussi. Je vais revenir. Oui, Dominique, vas-y. Oui, tu fais pas de problème. Pas de problème, vas-y, fort. Belle façon de s'endormir, ça. Non, mais c'est bon, mais il dit même trois fois, dans le fond, Paul est venu me voir à la fin du cours, à la semaine passée, avec la même question. Même ça semble être une répétition. Avant de répondre à la question, je vais quand même prier, mais je vais revenir tout de suite avec ça. Je veux prier pour ce matin. Seigneur, on veut te remercier encore pour cette opportunité qu'on a d'être ensemble ce matin. Seigneur, je veux te remercier puisque tu t'es révélé à nous. Et tu t'es révélé dans ce que tu as fait, dans qui tu es. Puis Seigneur, c'est une bénédiction pour nous d'être appelés tes enfants, que tu nous aies adoptés. Et Seigneur, merci de nous aimer, de nous pardonner. Merci de nous avoir pardonné en Christ une fois pour toutes. Merci Seigneur parce qu'on est sous ta grâce. Et je te remercie de daigner nous utiliser aussi tous les jours pour... Tu daignes nous utiliser, Seigneur, pour amener des gens à toi, pour être une bénédiction pour les autres, ça, malgré nos fautes, malgré mes fautes, Seigneur, et je veux te remercier pour ça. Et merci d'être un Dieu aussi qui renouvelle mon intelligence, et c'est bon de te connaître, Seigneur, et on veut ce matin pouvoir te connaître encore davantage à travers ta parole. Amen. Oui. Oui. Je comprends ce que tu veux dire. Ces trucs. Je comprends ce que tu veux dire. Je comprends ce que tu dis. Je vais répéter justement pour ceux qui écoutent. Dominique a amené deux observations. Une, la même que Paul m'a amené, Paul de Grandmaison, la semaine dernière. Ça a l'air un petit peu bizarre lorsqu'on lit versets 26 et 27 du chapitre 1. Il y a trois fois la même chose est répétée. D'ailleurs, c'est trois fois, parce que si tu prends le verset 26, ça dit « Faisons l'homme à notre image ». Puis après, au verset 27, « Dieu créa l'homme à son image ». Ben même dans le fond, verset 27, il répète trois fois pratiquement aussi. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, homme et femme, il les créa. Ça, c'est comme, c'est drôlement dit pour nous en français lorsqu'on le lit. Donc ça, c'est la première observation que tu soulèves. Je vais y venir. Puis l'autre, une réflexion sur le fait pourquoi est-ce que l'homme et la femme auraient été créés en dernier dans le processus de création. Tu te demandais si peut-être, à quelque part, Dieu voulait garder son mode d'emploi caché. je te paraphrase. C'est ça. C'est une réflexion. Moi, je pense que c'est certain que c'est pas un hasard que l'homme et la femme sont créés à la fin de tout. C'est sûr que ça reste des créatures. Je pense que jusqu'à un certain point, on pourrait jamais faire ce que Dieu a fait simplement parce que Dieu créait à partir de rien. C'est juste les termes sont utilisés, ex nihilo. Je veux dire, nous, Dieu, on va le voir, nous a donné le droit, si on veut, de dominer sur toute la terre, sur tous les animaux et sur la terre aussi. Ça dit « et assujettissez la terre ». C'est que même il y a vraiment ici une permission de la part de Dieu de faire de la science et de la technologie, dans le sens qu'on peut, avec l'intelligence que Dieu nous a donnée, utiliser la terre à nos propres fins, OK? Quand je dis à propres fins, il faut toujours dans le contexte qu'il n'y avait pas de péché à l'époque, là. Ça n'aurait pas été dans un contexte, ça n'aurait pas été négatif pour la planète, la façon qu'on l'aurait utilisé, puis ça n'aurait pas été négatif pour notre relation avec Dieu. Mais on avait tout à fait le droit de cultiver la terre, donc à quelque part, l'homme aurait certainement pu développer des façons plus pratique de cultiver la terre, par exemple. T'sais. On va le voir, mais qu'on va arriver avec les descendants de Caïn, que ça a pris quelques générations, mais ça n'a pas été long, qu'ils ont découvert la métallurgie, la musique, etc., etc. T'sais, c'était déjà des utilisations. Pourquoi je disais ça, là? J'ai retrouvé ma ligne de pensée. Donc, oui, on est capable de faire des trucs, mais jamais à pleine échelle, comme Dieu l'a fait, évidemment. Mais une chose est sûre dans le texte, c'est que l'homme et la femme sont créés en dernier. Parce que quelque part, Dieu a tout préparé le terrain pour eux. Ça, c'est clair qu'on le voit dans le texte, que tout ce que Dieu crée, c'est pour que l'être humain puisse en profiter. Puis nous, souvent, on se sent coupable de dire ça, là, mais il en profite dans un contexte où ce qui est en relation parfaite avec Dieu, mais il profite de la création de Dieu. Il va en jouir, il va la gérer aussi avec la permission de Dieu. Et c'est sûr que lorsque l'homme et la femme arrivent, sur la terre, à ce moment-là, on a une terre qui est fonctionnelle, qui est remplie. Puis même Dieu va mettre des touch-ups une fois que l'homme va être créé. On va voir dans le chapitre 2, il va créer une place un peu plus spécifique, le jardin d'Éden, puis il va le placer à un endroit, il va placer l'homme dedans, encore une place encore un peu plus belle, je dirais, ou plus plaisante à habiter. C'est que ça, c'est un pour ta deuxième observation. La première, c'est... La première, il y a vraiment un élément de répétition, puis j'ai regardé avec Paul, j'allais voir aussi un commentaire là-dessus. Oui, il y a carrément de la répétition dans l'hébreu, on ne sait pas trop pourquoi, là, puisque trois fois il dit la même chose. Une chose que ça clarifie, comme je vous ai dit la semaine passée, c'est que le verset clarifie, ça ne peut pas être plus clair que ce verset-là, que mâle et femelle, homme et femme, sont tous deux créés à l'image de Dieu. Tu ne pouvais pas le rendre plus clair que ça. C'est que même quand on tombe dans le chapitre 2 qui nous donne les détails de la création du jour 6, le verset 27 du chapitre 1, lui clarifie que les deux sont créés à l'image de Dieu. C'est que toute idée qui différencierait l'homme et la femme sur la base de leur valeur est totalement là, pas dans le texte. Ça n'a rien à voir avec ce que le texte dit. Mais maintenant, il y a une répétition pratiquement trois fois. On va créer à notre image, on crée à notre image, on crée à notre image. Puis tout ce que j'ai vu comme commentaire là-dessus, c'est que c'est intéressant que cette répétition-là vienne dans un contexte où Dieu, encore là, parle au pluriel, tu sais, faisons l'homme à notre image. Puis on a déjà vu un petit peu la participation des trois personnes de la Trinité dans la création. Dès les premiers versets du chapitre 1, on s'en rappelle, on voit évidemment Dieu le Père dès le premier verset. On voit l'Esprit de Dieu dès le deuxième verset qui planait au-dessus des eaux dans vos versions. Puis on voit la parole de Dieu. Dès que Dieu dit, la première fois lorsque Dieu dit, c'est que la lumière fut. C'est qu'on voit l'intervention de la parole de Dieu. Puis lorsqu'on voit dans le Nouveau Testament avec Jean 1, on a une belle référence à Jésus, au Fils de Dieu. T'sais. Puis là, on a encore ici un pluriel. Lorsque Dieu arrive à la création de l'homme, il se parle à lui-même, comme s'il était un groupe de personnes. Puis après, c'est drôle, on va pas en faire un système, ce que je vous dis là, mais c'est drôle, il répète trois fois qu'on va créer à l'image de Dieu, puis on sait que Dieu est trois personnes en une. T'sais. C'est que c'était la suggestion que j'ai vue dans les commentaires, qu'il y a peut-être une allusion à ça ici, dans un contexte que Dieu parle de lui-même comme étant une personne, plusieurs personnes en une. Je vais prendre cette exception. Ce que je viens de dire, c'est même plus complexe que ça, c'est pas compréhensible en bout de ligne, mais on a ça, on voit une répétition comme ça. C'est que c'est peut-être ça, ou sinon, c'est pas dit dans le texte pourquoi il répète trois fois la même affaire. T'sais.
sur le point de vue que Dieu s'est trinité doctrinaire. Mm-hmm. Il a fait l'homme aussi, l'homme le corps.
Ouais, ouais. Oui, oui, ça c'est une autre, c'est encore pour donc Paul dit ici une des choses qu'on pourrait dire qu'on est fait à l'image de Dieu, c'est que Dieu est Trinité. Puis dans un sens, nous aussi, on est en trois parties, l'âme, l'esprit puis le corps. Paul y revient avec cette idée-là dans le Nouveau Testament. Probablement, j'aurais pas tendance à dire moi personnellement que c'est l'idée la plus forte là-dedans, pour les Hébreux, c'était pas aussi clair qu'on était comme trois parties. On était beaucoup plus. Pour les Hébreux, dans la mentalité de l'Ancien Testament, c'est beaucoup plus le corps puis la partie spirituelle. Ça a l'air d'être plus deux parties que trois. On arrive dans le Nouveau Testament, il parle vraiment de l'âme, de l'esprit puis le corps dans des versets. Il mentionne les trois. Tu sais. Oui, oui, ça peut certainement être ça. Je pense qu'une chose qu'il faut retenir dans l'image de Dieu, c'est que c'est clair qu'on est on est esprit comme Dieu est esprit, minimum, puis qu'on est capable d'une relation avec Dieu qu'aucune autre créature est capable. C'est que ça, je pense que ça, c'est assez central dans l'idée ici. Parce qu'après ça, Dieu va se mettre à parler, va nous parler, va vouloir entrer en relation avec nous, mais d'aucune façon, il fait ces trucs-là avec les animaux qu'il a créés auparavant. C'est clair que ça, c'est central. J'ai lancé plusieurs autres idées la semaine passée qui sont pas dans le texte, mais là, en regardant le reste des Écritures, on peut avoir des idées, là. Oui, Simon? Mm-hmm. Ouais, ouais, ouais. Tout à fait. Ouais, c'est un bon point. Simon dit que justement dans une prédication probablement de Yannick dans les dernières semaines, souvent lorsqu'un auteur répète immédiatement une même idée, ça soulève l'importance de l'idée. Tout à fait logique. Puis s'il y a de quoi répéter ici, l'idée quant à la ressemblance de Dieu, je pense que c'est assez important dans le texte parce que c'est justement pas ça qui est prêché de nos jours. Puis assez vite, dans les peuples humains, cette idée-là s'est disparue, est-ce que les gens étaient rendus au même niveau que les animaux, au même niveau que le reste de la création. Puis on le sait aujourd'hui, j'en ai parlé, mais notre valeur, là, vraiment, notre valeur intrinsèque, le fait qu'on a de la valeur, là, ça n'a rien à voir avec nous qui avons décidé qu'on avait de la valeur. Parce qu'au pire, ça serait une valeur fictive, on se serait créé cette valeur-là. Notre valeur vient du fait que le Créateur nous en a donné, tu sais. Comprenez, le Créateur, il nous a créés, il est à l'extérieur de nous, puis lui, il nous donne la valeur. Et là, on a de la valeur. C'est que dans ce sens, ici, cette vérité-là, qu'on est à l'image de Dieu, va contrairement à une pensée d'évolution, là. Puis ça fait que c'est une idée super importante, parce que ça va influer dans la façon qu'on va se comporter avec les êtres humains versus avec les animaux, tu sais. Puis c'est super important. Puis on a une société aujourd'hui, c'est que on vient un peu blasé même à cette idée-là. On est tellement, des fois, on est pratiquement plus mal de voir de la nature qui souffre que de voir des enfants qui souffrent dans le tiers-monde, tellement qu'on se fait des fois pitcher par des images de nature ou d'animaux, puis ça nous est présenté d'une façon que ça nous affecte. Pas que c'est pas triste, vous comprenez, mais à moins que tu viens un petit peu, là, c'est pas la même chose, là, on parle pas de la même chose, on parle des êtres humains versus le reste. Oui, j'avais une autre main levée, là, Dominique, oui. Mm-hmm, tout à fait. Tout à fait.
Ça m'a frappé parce que quand t'as dit au jour que le péché m'a frappé bien des enfants, c'est que le Seigneur n'est pas capable d'être en train du péché. Mm-hmm. Quand tu gavais bien des plans en parlant, tu vois que le Seigneur il se manifeste sa affaire à des gens comme le Paul, tu sais. Mm-hmm. Il pas sa affaire, puis il était comme mort, là, puis il y a des écailles qui sont. Mm-hmm.
Tout à fait. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Donc, Dominique dit pour les besoins de l'enregistrement. Oui, il réalisait comment que le péché a changé la donne par rapport au fait que Dieu, on est en parfaite relation avec Dieu au début, puis c'est plus le cas aujourd'hui. Mais même ce qui est plate, mais on n'a pas eu beaucoup, il n'y a pas eu beaucoup de temps qui s'est passé avant que le péché arrive dans le monde. Hein. C'est qu'on n'a pas eu le temps de voir un petit peu un portrait de ce qui se passait, tu sais. On a une idée parce qu'on voit que Dieu, vient jaser dans le jardin avec l'homme et la femme, même après le péché. Là. D'ailleurs, c'est surtout là qu'on a les premières discussions. C'est pas vrai. Avant, non, c'est pas vrai. Je retire ce que je viens de dire. Dieu jase avec Adam en masse avant pour il donne son commandement. Il fait conscientiser du fait qu'il y a pas personne de semblable à lui dans la création. Puis il est pas bon que l'homme soit seul. Il y a un aspect d'interaction là, qui est tout à fait normal. Là, déjà avant le péché. T'sais. On aurait pu en avoir un peu plus. Ça avait duré plus longtemps, mais ça n'a pas été long que le test devait être passé pour Adam et Ève. Mais oui, tout à fait. Là, c'est ça la tragédie. La tragédie, à la base, c'est pas la mort physique qui allait atteindre éventuellement Adam et Ève, puisqu'elle est décédée dans 900 quelques années. La tragédie, ça a été la mort instantanée spirituelle, où ils ont été séparés de Dieu au moment même où ils ont péché. Dieu est intervenu pendant sa grâce, on va le voir, Dieu est intervenu par un moyen de réconciliation, mais à la base, c'est ça la tragédie. Puis là, ils ont dû quitter le jardin, puis ils ont été coupés d'une relation avec Dieu. D'ailleurs, dès le moment qu'ils ont péché, ils se sont cachés, on se devance, puis ont commencé déjà à se défendre ou à mentir. Il y a déjà quelque chose de pas beau dans quelque chose qui était beau avant, qu'il n'y avait pas ça. Là. Il n'y avait pas cette sournoiserie-là. Oui, monsieur Eli.
Oui, le fait que aussi, il manquait à se mettre passé, mais on dirait que c'est vraiment sorti. Après chaque étape de la création, la parole dit « c'était bien, c'était bon ».
Mm-hmm.
Mais quand c'est venu à l'être humain, mm-hmm. il n'a pas dit ça. Il a dit c'est très bon, c'est très bien. Il donnait une valeur ajoutée.
Mm-hmm.
Fait que ça, c'est on,
tout à fait.
Quand même la valeur que Dieu a donnée à l'homme versus toute sa création.
Tout à fait. Tout à fait, tout à fait.
Puis l'autre chose, c'est le fait que commentaire qui a été mentionné, il a fait créer Adam et Ève en début, puis être témoin de toute la création. Mais tu sais, quand on pense Dieu, c'est un Dieu d'ordre, il fait chaque chose en son temps. Parce qu'il veut garder les choses aussi naturelles comme telles, il a été obligé de dire à Adam et Ève, là, j'espère que tu n'as pas faim, parce que ça va prendre au moins 5-6 jours avant que je fais la nourriture. Tiens ton souffle, il n'y a pas assez d'oxygène que tu
peux. Non, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr.
Fait que, juste, c'est comme on suit une maison. Est-ce que tu as amené tes parents sur un terrain pour dire, maman, papa, reste là, je suis en train de bâtir ta maison. Bouge pas.
Mm-hmm. Non, c'est sûr,
donc,
c'est sûr.
Tu peux te préparer, que tu voici ta maison.
Oui. Tout à fait. Donc, je pense que ça a été enregistré pas mal. Mais tout à fait. Là, c'est sûr que non seulement il y avait une logique où s'il fallait que la maison soit habitable avant qu'elle soit habitée. Ça, c'est clair qu'au début, quand il dit que la terre est encore informe et vide, ben, il fallait résoudre ce truc-là pour arriver. Puis qu'on arrive au chapitre 2, puis ça dit au début du chapitre 2, ainsi refut achevé le ciel, les cieux et la terre et toute leur armée. Parce que l'armée maintenant avait l'armée des cieux, la terre et les cieux étaient remplis maintenant, rendus au début du chapitre 2. Je voulais juste dire, ouais, c'est ça. Puis tout à fait, verset 31, on ne l'a peut-être pas mentionné encore, on n'était pas rendu là, mais chapitre 1, la fin du sixième jour, Dieu dit, cela était très bon. C'est clair qu'il y a un indice ici là, du fait que, oui, ça peut être un très bon qui fait référence au fait que la création est finie entièrement après six jours, mais au sixième jour, il y a quelque chose de spécial qui s'est passé, tout à fait. Y avait-il encore une main levée? Oui, M. Gaudin.
Juste là, par rapport au sixième jour que Dieu créa l'homme. Parce que le septième jour, Dieu se reposa de ses œuvres. Après ça, l'homme, il a été créé pour justement jouir du repos de Dieu. On voit de toute la...
Tout à fait, tout à fait.
Et ça fait allusion aussi aujourd'hui, pour notre salut. Dieu a tout accompli en Jésus-Christ. Là, il est rentré dans le repos, puis il nous invite nous autres aussi à rentrer dans le repos.
Tout à fait, tout à fait. Tu es en train de faire référence carrément dans l'hébreu qu'on a beaucoup d'enseignements au niveau du repos du Seigneur, dans le Seigneur. Oui, tout à fait. Puis avant de poursuivre, juste un petit commentaire sur quelque chose qui était peut-être pas clair. J'y ai réfléchi après. C'est avec Simon, on en a parlé, qu'on a parlé de la connaissance du bien et du mal, parce qu'on a abordé ça aussi. Pourquoi qu'on a déjà abordé ça? On avait-tu couvert? Moi, c'était 30 jours. On s'est beaucoup d'avancé. Ça fera juste en sorte que je vais passer un petit peu plus vite, mais qu'on va avancer au début du chapitre 2. C'est que c'est clair que, je pense que, parce que ça dit lorsque Adam et Ève avaient mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Dieu dit qu'il était rendu comme l'un de nous. Puis là, Dieu voulait l'empêcher de manger de l'arbre de vie puis de vivre éternellement. C'est que là, il les a chassés du jardin. Verset 27, chapitre 2. 29, chapitre 2, je pense. Un petit peu. C'est-tu vrai ce que je vous dis là? Non, c'est chapitre 3, excusez-moi. Ouais. Oui, donc 3, 23, 24, 22, c'est ça. Donc, c'est clair que de quoi que s'est passé lorsqu'ils ont mangé l'arbre par rapport à quelque chose qui les rendait comme Dieu maintenant, dans leur connaissance du bien et du mal. Et c'est clair que c'est pas le fait qu'ils avaient connu le mal par la pratique, par l'expérience. Dieu ne pratique pas le mal, ne connaît pas le mal par l'expérience. Mais Dieu sait que l'adultère, c'est mal. Je vais vous donner cet exemple-là, par exemple. Je pense pas qu'Adam et Ève, avant de pécher une première fois puis de désobéir au premier commandement, étaient conscients puis pouvaient faire une liste, c'est quoi les péchés, tu sais. C'est-à-dire, ah, en passant, tu sais, le, je sais pas, moi, l'inceste, c'est un péché. C'était même pas une idée pour eux. Ils faisaient le bien. Il était toutefois, c'était ça la petite nuance, il était capable de recevoir un commandement. C'était pas des robots toutefois, c'est ça la nuance. Il était capable de recevoir le commandement de Dieu, mange pas, puis savoir que je mangerai pas, là. Tu sais, je veux dire, il ne s'empêchait pas de manger parce que c'était un robot qui avait enregistré une information. Il se mangeait pas parce qu'il était conscient qu'il fallait pas manger. Il avait une conscience que je vais obéir à Dieu. Mais entre cette conscience-là, puis savoir c'est quoi le péché, connaître le mal, ça a été une révélation qui est venue avec le premier péché, certainement. C'est que ça clarifie. On peut même aller chercher l'image de la honte dans la nudité, là. C'est pourquoi tout d'un coup, ça a été honteux d'être nu, puis c'était pas honteux avant, tu sais. Parce que la nudité amène plein de péchés, tu sais. C'est que là, tu avais une connaissance de tout maintenant, de tout ce mal-là que la nudité peut amener, tu sais. En passant, je dis pas qu'avec le temps, les gens auraient été entièrement tout nus tout le temps. Je sais pas, parce qu'à un moment donné, il y a un aspect d'intimité de couple aussi. Je veux dire, bon, je sais pas, là. Ça veut-tu dire qu'on ne se serait pas habillé parce qu'il faisait beau dehors? Ça veut-tu dire que les enfants auraient tout le temps vu leurs parents nus puis qu'on aurait vu les autres familles nues? Puis bon, je veux dire, à quelque part même, je veux dire, le temps de la procréation, j'imagine qu'il faisait pas ça à l'air libre. Là. Il allait dans une forme d'intimité. Comprenez, c'est que la notion d'intimité était quand même là. Ça veut pas dire que tout le monde aurait été nu tout le temps devant tout le monde. OK, je voulais juste faire cette petite nuance-là. Mais le fait que la nudité devenait honteuse tout d'un coup, il y avait toute une notion de péché qui était pas connue avant, qui était maintenant là, tu sais. J'ai honte parce qu'il y a, toutes sortes de choses que ça l'amène, cette nudité-là. C'est que certainement que ça va dans le sens qu'il y avait une connaissance du mal maintenant qui était chez l'homme, puis que l'homme, n'étant pas Dieu, Dieu voulait pas que l'homme ait cette connaissance-là, puis ait la possibilité de vivre maintenant éternellement. Donc oui, à quelque part, s'il avait mangé l'arbre de vie, si on se fie au verset 22, il aurait vécu éternellement. Ça veut-tu dire par conséquence qu'il fallait qu'il mange l'arbre de vie avant qu'il pêche? Peut-être, peut-être pas. Je pense que c'est un petit peu secondaire comme question. L'important, c'est qu'il allait vivre éternellement, puis que Dieu donne la vie éternelle directement ou par le moyen détourné d'un fruit. Peu importe, rendu là, on s'estinera pas sur ce détail-là. Mais c'est clair qu'en tout cas, après avoir péché, il fallait pas qu'il mange cet arbre-là. En tout cas, on peut se faire plein d'idées là-dessus. Puis, comme j'ai dit, on peut aller voir dans l'Apocalypse, cet arbre-là, l'arbre de vie est encore là, puis il produit un fruit à chaque mois, puis ses feuilles servent à la guérison des nations. C'est que certainement, ça va vers nous penser à une certaine direction, mais je pense que c'est pas plus grave si on n'a pas des réponses claires là-dessus, tu sais. Parce qu'on est certain. S'il n'y a pas d'autres questions, on va continuer. Oubliez pas, là, on termine le sixième jour dans le chapitre 1, puis le sixième jour est super résumé dans le chapitre 1, OK? On nous dit juste que l'homme et la femme ont été créés à l'image de Dieu. On dit pas juste ça, mais on dit quelques affaires, puis dans le chapitre 2, on va vraiment nous donner les détails en grande partie du sixième jour dans le chapitre 2. Le chapitre 2 n'est pas en opposition avec le chapitre 1 comme beaucoup le voient. Ou c'est ça, ils le voient parce qu'il semble avoir de l'opposition dans l'ordre des événements. Lorsqu'on vous a lu le chapitre 2, des fois on a l'impression que la végétation est créée après l'homme, que les animaux sont créés après l'homme, comme dans le chapitre 1, c'est le contraire. On les voit dans le chapitre 2. Mais de penser ça, c'est déjà d'opposer les deux textes. C'est-tu vraiment ça que ça dit, chapitre 2? On va le voir que non, pas nécessairement. On peut prendre le chapitre 2 chronologiquement, puis ça complète le chapitre 1, même chronologiquement. Puis il y en a qui disent que le chapitre 2, ça ne veut pas dire que tout ce qui est écrit dans le chapitre 2 s'est produit un à la suite de l'autre. Des fois, il y a des blocs, des paragraphes où ce que là, on parle de la création du jardin. Après ça, on parle de la création des animaux que Adam a nommés. Ça ne veut pas dire qu'un s'est fait avant l'autre nécessairement. C'est sûr que les Hébreux n'ont pas la même pensée que nous, ABC, là, c'est très linéaire, où ce qu'on pense, on fait des choses un à la suite de l'autre. T'sais. Ceci étant dit, on va y arriver dans le chapitre 2. Moi, je pense qu'on peut lire le chapitre 2 d'une façon linéaire aussi, sans contredire le chapitre 1. Mais ça, on y arrivera. Donc, fin du sixième jour dans le chapitre 1, Donc, on a pas mal juste parlé de l'idée de la création de l'homme à son image. Mais il y avait vraiment l'idée aussi qu'on a abordé rapidement que Dieu donnait la permission à l'homme de dominer. J'en ai parlé. Donc, d'assujettir dans le département des activités que l'homme peut faire au niveau de la technologie, au niveau de la science, etc. Il y a une permission de la part de Dieu ici. Là. C'est pas mal que l'homme utilise ses connaissances pour cultiver le sol ou peu importe. Là. On va voir qu'Abel était berger. Là. Il y avait de quoi. Là. C'est qu'Abel avait commencé à... il avait appris puis il avait commencé à dresser des moutons, whatever. Là. Comprenez? Puis ça, c'est pas quelque chose que Dieu détestait. Là. Donc, c'est une permission que Dieu a donnée tout à fait. Aussi, je vous ai mentionné rapidement... le mot homme est souvent utilisé dans Genèse 1, particulièrement de façon générique. Adam, le mot Adam, c'est le mot hébreu pour homme. Donc, Adam a été appelé Adam. Des fois, Adam fait référence à l'homme et la femme. C'est générique, c'est l'être humain. Des fois, c'est juste Adam en tant que personne. Puis ça, le contexte le met très clair. Là. D'ailleurs, le verset 27, Dieu créa l'homme à son image pour confirmer que c'est vraiment le mot générique qui est utilisé. Il dit après ça, homme et femme, il les créa. Il spécifie que le mot homme, c'était, ça l'inclut homme et femme. Et vous pouvez même aller voir au début du chapitre 5. Au début du chapitre 5, on a encore, c'est encore aussi clair que ça. Au début du chapitre 5, voici le livre de la postérité d'Adam. Le jour où Dieu créa Adam, il le fit à la ressemblance de Dieu. On revient encore au chapitre 1. Homme et femme, il les créa. Il les bénit, il les appela du nom d'homme. Là, ça devient plus clair. Il les bénit, il les appela du nom d'homme. Dans notre Bible, des fois, c'est traduit avec un gros H, mais c'est encore le mot Adam. Okay? C'est juste que là, ce verset-là est encore plus clair que de dire ici que des fois, le mot Adam, le mot homme, il est générique, il inclut homme et femme. C'est le chapitre 5, verset 2, c'est là que c'est encore le plus clair. Au moment où ils furent créés, le nom d'homme leur fut créé, mais les deux ont été créés à l'image de Dieu. C'est difficile encore d'être plus clair que ça. Là. Je voulais juste le mentionner parce que le mot « ish », ça c'est en... Donc, le mot « femme » ici qui est utilisé en hébreu, c'est le mot « nakeba », je pense, en tout cas, dont la racine est « nakab ». Ça a vraiment rapport avec la forme sexuelle de la femme. Là. Sans aller dans les détails, là, ça, y a des fois c'est traduit par « perforé »,« orifice bon, », vous voyez l'idée. Donc, il y a un peu, c'est l'idée un peu plus sur la forme sexuelle ici. C'est pas le même mot que « ish » et « isha » quand la femme est créée. L'homme voit la femme pour la première fois puis dit « Ah, voici os de mes os, chair de ma chair. » Elle sera appelée femme. Okay? Là, c'est vraiment Isha. Puis là dans ce texte-là, en hébreu, le mot pour homme, c'est Ish. Là, il y a vraiment une idée qu'on est une seule chair parce que même le mot, le nom, c'est une particule du mot Ish. Donc, Ish, Isha. Là, il y a vraiment un jeu de mots dans l'hébreu lorsqu'on arrive à la création de la femme. Le reste du temps, c'est ça, on a vraiment Adam, le nom générique, ou Adam pour l'homme, ou Nakeba pour la femme, là, qui fait référence plus à sa forme sexuelle, la différence physique entre les deux. C'est que je l'avais mentionné rapidement, mais je voulais juste que ça soit clair, ça aussi. Verset 28, dans le fond, on n'a pas parlé de ça, je vais en parler brièvement. Dieu bénit l'homme et la femme, évidemment, verset 28, il leur dit « Soyez féconds ». La même chose qu'il dit, dans le fond, aux animaux, hein, vous en rappelez, il y a une petite différence. Toutefois, il dit « Multipliez, remplissez la terre », même mandat que pour les animaux. Sauf qu'à ce point-ci, on a juste un couple d'hommes, là, un homme et une femme. Là. Les animaux ils étaient créés déjà une grosse gang. Ça allait, leur multiplication allait plus vite que l'homme. Bon, l'homme, c'est un peu plus long. Là. Donc... Sauf qu'il dit, il lui donne un rôle, assujettissez la terre, dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Et ici, le contexte, il n'est pas dans un contexte négatif, la domination qui parle. C'est vraiment dans un contexte d'intendance positive. Là. Le péché n'est pas dans le monde à ce moment-là. L'autre chose que je n'ai pas mentionné, mais la première fois qu'il donne ce commandement-là, c'est au verset 26, pour qu'il domine sur les animaux. Verset 26, faisons l'homme à notre image pour qu'il domine. Puis le verset 27 nous spécifie que quand il parle de l'homme, c'est le mot générique. Il dit homme et femme, il est créé à l'image de Dieu. C'est que c'est clair que même le commandement ici est donné aux deux. Donc, c'est un job qui est à faire en équipe. Okay? La question de l'assujettissement et de la domination, c'est un job d'équipe. Le verset 26 et 27 résume le chapitre 2, la journée 6, mais c'est un job qui est donné aux deux. Okay? Ça aussi, c'est quelque chose qui est très clair dans le texte, je voulais le mentionner. Donc, Dieu dit à l'être humain d'être fécond, de remplir la terre. Quelques commentaires à ce niveau-là. Ça veut-tu dire qu'il faut absolument continuer à être fécond aujourd'hui, puis si on décide d'arrêter d'être fécond après deux enfants, on désobéit au commandement de Dieu à l'époque, ou si on décide de ne pas avoir d'enfants, on désobéit au commandement à l'époque? Je pense qu'il faut prendre deux choses en considération. C'est clair que la procréation, c'est un des buts du mariage, dans le sens que c'est dans le mariage qu'on procrée. Donc, c'est sûr qu'un des buts de se marier, si tu veux procréer, il faut que tu te maries, tu sais, bon. L'autre chose qui est claire, c'est que Dieu se plaît dans la multiplication de ses créations, de ses créatures. Dieu se plaît là-dedans. Tu sais, on pourrait aller chercher des versets dans Proverbes, dans Psaumes, sur comme quoi d'avoir des enfants, c'est une bénédiction. Donc, c'est clair qu'ici, il y a une idée que Dieu, c'est quelque chose de beau, de bon. C'est quelque chose que Dieu aime. C'est dans sa nature, la multiplication. Lui-même a l'image d'un père avec ses enfants qu'il a adopté. C'est quelque chose de bon. C'est quelque chose de bon pour nous aussi, parce que c'est à travers, Dieu est un être relationnel, puis c'est souvent à travers les relations que nous on grandit, qu'on apprend comment Dieu est. En premier, dans notre relation avec notre conjoint, puis aussi en relation avec nos enfants, parce qu'on a un peu, on apprend à connaître Dieu sous l'angle du Père envers nous, puis ça devient beaucoup plus pratique quand tu le vis pour vrai que quand tu l'as en théorie. C'est sûr qu'il y a des bénédictions ici. Toutefois, je pense que ce commandement-là peut pas être pris sans prendre en considération la nouvelle alliance, la venue de Jésus sur la terre, la rédemption, puis le commandement qui dit de faire de toutes les nations des disciples. Je pense qu'il faut garder ça dans l'aspect aussi que, parce que Paul va en parler dans le Nouveau Testament. Maintenant, les choses ont changé dans le sens, maintenant la priorité c'est de gagner des âmes pour Christ. On a connu l'Évangile, on a connu Jésus. C'est que même le commandement de faire, de procréer, d'être fécond, je pense, doit être assujetti à ce commandement-là, tu sais. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. C'est quand tu fais quand t'es fécond, à quelque part, tu dois vouloir faire des disciples de Jésus pour être vraiment en train de répondre aux vrais commandements en bout de ligne. C'est qu'on connaît le Nouveau Testament. C'est qu'en ce sens-là, des gens qui n'auraient pas des enfants parce que quelque part, ils ont décidé d'aller s'investir dans un champ missionnaire, je pense pas qu'ils sont en train de désobéir au commandement du chapitre 1. Mais sans rien d'obéir au commandement, je pense qu'ils chapeautent le tout de faire des nations des disciples. Vous comprenez ce que je veux dire? Sans parler du fait que le péché a magané bien des affaires, c'est que c'est pas toujours possible de toute façon d'avoir des enfants. Mais je voulais juste le mentionner, parce que c'est un commandement qui a jamais été révoqué officiellement quelque part. Ça dit, bon, ben là, il y a une chose qu'il faudrait pas dire toutefois, là, c'est de dire, ben là, la terre est remplie, les amis, on va arrêter, là. Si vous faites des enfants, vous êtes irresponsables. Ça, je pense, ça se tient pas non plus comme argument, parce que la terre actuellement est loin d'être surpeuplée, elle est loin d'être remplie. Elle est mal répartie, ça c'est clair, OK? Il y a des sections de la planète qui devraient peut-être slacker, là, mais il y en a d'autres que je veux dire, il y a de la place en masse. D'ailleurs, si on était sans péché, puis qu'on se regroupait tout à la gang, qu'on disait, OK, on va répartir les richesses un peu mieux, puis on va répartir la terre un peu mieux, je pense pas qu'on aurait les troubles qu'on a aujourd'hui, même au niveau de la surpopulation. C'est souvent qu'il y a trop de monde dans la même place, puis ça donne qu'ils sont dans des endroits où il n'y a pas beaucoup de ressources. Puis les places qui ont bien des ressources, écoute, on va à la pêche, on fait 12 heures de route, là, parce que, tu sais, on a de la place en masse. Fait qu'il y a vraiment un aspect que le péché a rendu les choses inégales. Si le péché n'était pas rentré, comment ça se serait passé? On aurait été fécond, on aurait rempli la terre, ça serait passé quoi après? Je sais pas, on serait peut-être allé conquérir d'autres planètes, puis on aurait eu, c'est ça, des vrais films de science-fiction. Dieu aurait peut-être, on aurait peut-être convenu avec lui, bon, là, écoute, la job est faite, les amis, puis on continue à vivre éternellement, mais sans nécessairement procréer. Je sais pas, vous comprenez, mais là, ce qui se passe actuellement, c'est pas, je crois pas qu'on pourrait dire que la terre, elle est remplie autant que le péché l'a mal réparti toute la patente. Donc, versets 29 et 30, un autre point important, on l'a mentionné, mais c'est au verset 29 et 30 qu'on apprend qu'à l'origine, Dieu voulait qu'on soit végétarien, Dieu voulait que tous les êtres vivants se nourrissent de la végétation. Et c'est pas pour rien que la végétation, il l'avait faite capable de reproduction. C'est parce qu'elle allait être illimitée. Elle était capable, elle, de se reproduire aussi selon sa semence, selon son espèce. C'est que c'était logique, c'est qu'il n'allait pas en manquer à force de manger. Elle n'a pas en manquer parce qu'il n'y avait pas le péché non plus pour en prendre plus pour toi quand tu n'as plus faim, mais tu les gardes pareil, puis ça pourrit, puis tu n'en passes pas à l'autre qui lui en aurait besoin. Il n'y aurait pas eu ça que ça serait passé non plus, t'sais. C'est que verset 29 étant, Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre. Donc, il parle à Dieu ici, il parle à l'homme et à la femme. Et toute herbe ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Puis là, au verset 30, et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel et à tout ce qui se meut sur la terre ayant en soi un souffle de vie. C'est que tout ce qui a le néphèche, qui a le souffle de vie, qu'on parle de du petit insecte, au gros dinosaure, toute la gang allait avoir l'herbe verte pour nourriture. Et cela fut ainsi. C'est que c'est clair qu'à l'origine, il n'y avait pas de maringouin qui venait pogner ton sang. Je ne sais pas ce qu'il mangeait du nectar, mais il ne t'écœurait pas. C'est que là, j'allais dire, tu pouvais aller à la pêche tranquille, mais tu n'allais pas à la pêche. C'est que t'allais nager dans l'eau tranquille, tu te faisais pas piquer. Il y a beaucoup de choses qu'il n'y avait pas. D'ailleurs, celui-ci, je le mentionne ou je le mentionne plus loin. C'est ça, il n'y a plus rien à faire, on ne peut plus aller à la pêche. Donc, tout, ça allait se nourrir de la verdure, de la végétation. Et ça veut dire que ça empêchait toute forme de parasitisme. Tous les animaux qui se parasitent l'un l'autre. Parce que même si tu t'en rends pas compte là, que tu te fais parasiter dessus, mais qu'il y a quelqu'un qui vient bouffer une partie de toi, mais tu te fais parasiter pareil. Toute la forme de parasitisme, de carnivorisme, donc les carnivores, la prédation, ça n'existait pas. Même, j'irais jusqu'à dire la compétition pour avoir, parce qu'il n'y avait pas une question de limite dans les ressources que les animaux allaient s'entretuer pour réussir à bouffer, avoir assez de nourriture pour leur famille. Tout cet aspect-là n'était pas là au début. Donc, tout ce qui est les virus et les bactéries, ils mangeaient du gazon. Okay? Je ne sais pas comment ils mangeaient ça, mais ils ne venaient pas nous écœurer avec des maladies ou venir faire de quoi de négatif sur les cellules humaines. Mais il existait les virus et les bactéries. Ça fait partie des animaux qui rentrent près du sol, qui se meuvent près du sol. Mais je veux dire, tout Dieu a créé tout ça. Le péché a même changé ces organismes-là dans leur intention, dans leur façon de se comporter. Là, le péché, ça va loin. Là, ça a changé énormément de choses. Mais tout ça était bon. Parce qu'entre autres, vous savez, aujourd'hui, il y a plein de bactéries qui sont pas nécessairement, c'est pas négatif, c'est bon même. Ça détériore, je sais pas, là, ça fait l'humus dans la forêt, des feuilles là, qui se détériorent, etc. C'est correct, c'est pas négatif. Oui, ça... Des ronces, oui. C'est ça, c'est qu'il n'y a pas l'aspect même chez les plantes, chez les végétaux, certainement pas, il n'y a pas l'aspect négatif du parasitisme aussi ou de la compétition. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de. Ça veut pas dire qu'il n'y avait pas justement le fait que ça pousse en abondance, puis c'est lush en anglais, on dit que c'est très fourni. À quelque part, là, il y avait de la place pour Adam de cultiver puis de garder la terre. C'est une place pour mettre, je vais dire, entre guillemets, mettre de l'ordre, là, arranger ça à ton goût, parce que ça pousse, c'est bien beau, là, mais si tu veux passer au travers, ça te fait le fun d'avoir un petit chemin aussi. Mais il n'y avait pas l'aspect négatif, justement, de compétition, de parasitisme, même chez les végétaux. Je crois pas, parce qu'il y a des végétaux qui tuent des animaux chimiquement aujourd'hui. Là. Oui. C'est ça, ben j'y viens, c'est super. Tu me devances d'un paragraphe, je vais venir faire le commentaire. Hélène se pose la question, ouais, c'est bien beau là, la végétation, mais il y a plein d'animaux aujourd'hui qui se nourrissent de viande puis qui sont adaptés pour. Là, c'est clair que me semble que tu vivras pas loin s'ils n'ont pas de viande. T'sais. Fait qu'un très bon point.
Sauf que le premier métier étant le jardinier.
Dentiste, je pense que tu allais dire.
Le fait qu'elle devait. S'occuper de la terre.
Mm-hmm. Et procréer, faut pas oublier. Et procréer. Excusez-moi.
S'occuper des jardins, du fait qu'il devait cultiver, alors il s'exige une certaine séparation des plantes.
Oh, tout à fait, tout à fait.
C'est parce qu'il y avait des plantes qui ne devaient pas être là, selon lui, puis c'est pas lui qui voulait faire.
Exactement. Puis il avait le droit de le faire aussi, c'est ça l'idée. Là.
C'est ça. Parce que dans une plante peut envahir une autre si ça empêche.
Exactement, c'est pour ça que je dis envahir peut être négatif si une plante attaque une autre plante dans ce sens-là. Mais ce n'est pas nécessairement négatif qu'il y ait beaucoup d'abondance, mais toi, si tu veux mettre de l'ordre dans tes affaires, oui. Là, dans ce sens-là, oui, il y a de la place pour garder la terre, tout à fait. Non. Tout à fait, on avait la permission d'utiliser tout ça. Puis si nous, écoute, t'aimais les pommes rouges plus que les pommes vertes, c'était correct que tu cultives des pommes rouges et tu n'allais pas te faire taper ses doigts. Là. Dieu aime la diversité, il aime les goûts différents aussi. OK. D'autres choses aussi que je voulais mentionner, dans le fond. OK, je vais juste terminer mon idée, puis je viens à Hélène à ce que tu as mentionné. faut pas oublier que là, on parle aussi, le déluge n'a pas encore eu lieu. Le déluge va changer énormément la donne à ce niveau-là, pas juste le péché. Parce que le déluge va changer aussi l'environnement dans lequel les animaux vivent, OK? Puis il va devenir beaucoup moins, ça va être un environnement beaucoup plus adverse qu'un environnement bon. Et là, il y a tout l'aspect là, de... Tout l'aspect de la compétition, de la rareté des ressources, l'aspect aussi où, à un moment donné, la lutte pour la survie même des espèces, c'est toutes des conséquences du péché. Parce qu'aujourd'hui même, la création, si on veut, dans l'intelligence de Dieu, c'est un peu rajusté au fait que le péché est entré dans le monde. Et à cause du péché, le déluge, on s'entend que le déluge, c'est une conséquence du péché. C'est que beaucoup de populations qui s'équilibrent aujourd'hui avec la prédation naturelle, ou des feux de forêt, ou peu importe, mais... Entre autres, la prédation, trop de chevreuils à un moment donné, whatever, les populations. Soit qu'il, des fois, quand il y en a trop, ils meurent à cause des maladies. Il y a plus de propagation de maladies. Des fois, les prédateurs vont régulariser les populations. Puis des fois, c'est aujourd'hui, on voit qu'il y a des équilibres qui ont été atteints dans les écosystèmes comme ça. Il n'en était pas ainsi au début. Certainement qu'il y avait une autre dynamique au niveau des écosystèmes. Il y avait une autre façon d'avoir un équilibre. De toute façon, il n'y avait pas le péché, c'est qu'il y avait de la place pour aller vivre partout, pour juste, regarde, whatever, on est rendu 18 dans un 10 pieds par 10 pieds, on va aller à côté, mais on va aller à côté indéfiniment parce que le monde pouvait, parce que tu sais, il y en avait de la place puis c'était tout correct. Qu'est-ce qui serait arrivé quand tout était peuplé? Là, ça, c'est la question qu'on ne sait pas. Là. Dieu aurait certainement eu un plan. Mais aujourd'hui, on voit quand même Dieu qui avait. On voit quand même que les animaux et même les écosystèmes avaient. En eux, la capacité même de s'adapter à des environnements difficiles, puis il y a des équilibres qui se sont développés de nos jours. Ça ne veut pas dire que c'était les équilibres qui étaient là à l'origine. Ça, je voulais le mentionner parce que c'était pas du tout la même chose au début. C'est un verset qu'on a mentionné souvent comme quoi que le péché n'a pas juste affecté l'être humain, a affecté la nature comme telle. Puis il y a beaucoup de choses qu'on en a déjà parlé, qu'on voit dans la nature qui sont pas belles. On voit même de la compétition, etc. C'est pas beau. Et je vais lire rapidement Romains 8, 18 à 23 que vous connaissez déjà, mais c'est un des textes les plus clairs qui parle sur le fait que la création tout entière souffre les conséquences du péché. Romains 8, 18, « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. » Je pense ici que c'est un verset qu'on pourrait utiliser pour dire que dans les nouveaux cieux, nouvelle terre, il va y avoir une possibilité qu'on ait une création libérée de l'affranchissage de la corruption et de la servitude de la corruption. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Tout entière, là, végétation, les microbes, toute la patente. Et c'est pas elle seulement, mais nous aussi qui avons les prémices de l'esprit, nous aussi nous soupirons nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Donc, le péché a amené tout ça. Maintenant, pour répondre à la question d'Hélène, bibliquement, c'est clair que tous les animaux se nourrissaient de végétaux. Encore là, aujourd'hui, on voit qu'il y a des animaux qui semblent être très adaptés à se nourrir de d'autres animaux. C'est clairement, pour moi, encore une belle manifestation de sélection naturelle. Okay? Ça ne veut pas dire qu'ils ont été si transformés que ça, mais c'est encore une autre façon, ce que Dieu, autant qu'il a mis dans le code génétique ou dans l'information génétique en a énormément, autant que les animaux, justement, étaient capables de s'adapter dans des situations négatives aussi, où que le péché est rentré, puis maintenant, il fallait que tu te nourrisses d'autres animaux. Pour certains, ça allait être plus facile que pour d'autres. Il y en a d'autres qui n'ont jamais nécessairement commencé à bouffer d'autres animaux. Pour certains, ce qu'ils utilisaient pour d'autres raisons venait maintenant possible d'être utilisé pour bouffer d'autres animaux. Puis, avec la sélection naturelle, ils pouvaient avoir une certaine accentuation de certains traits dans leur progéniture. Tu sais, mettons, je sais pas, là, peu importe, là, je vais sortir un exemple vraiment bébête, là, mais si tes griffes moindrement, tu peux en avoir des grosses plus pointues, d'autres moins pointues. Peut-être que c'est peut-être pas si simple que ça, là, mais peut-être que des progénitures qui avaient des griffes un peu plus poignantes ou coupantes. Moi, c'est un exemple vraiment poche. Mais tu sais, ils ont plus de chances de réussir d'attraper une couple d'animaux ou s'ils courent plus vite ou peu importe. Mais tu sais, la variabilité dans l'espèce, elle a aidé à sélectionner certains traits. Ceci étant dit, une chose est claire, c'est qu'une des choses qui nous fait souvent dire qu'on a de la misère à concevoir qu'un tel animal va manger du gazon, c'est sa dentition. Ça, c'est peut-être une des choses dans les fossiles qui font en sorte que les gens vont interpréter tel fossile comme ayant été carnivore à cause de la dentition, tu sais, des canines prononcées, des trucs comme ça. Encore là, il faut voir qu'il y a beaucoup d'interprétations là-dedans. Moi, je suis sûr que vous le connaissez, je vous lâche une idée d'animaux. Il y a un animal actuellement là, qu'on connaît bien, que si vous le voyez, si vous voyez son squelette, vous allez être convaincu qu'il mange de la viande, puis il ne mange pas de la viande, mais pas du tout. OK? Qui peut penser à un animal? Hein? Le panda géant, là, le gros panda noir et blanc que nos enfants trippent dessus, là, qui mange juste du bambou. Puis de, lui, c'est un végétarien, là, mais vous y regarderez à la gueule. Okay, vous y regarderez à la gueule, je veux dire, c'est un ours. Là, je veux dire, puis ça, tu te demandes même c'est quand est-ce qu'il va catcher qu'il a arrêté de se crêper sur du grand bambou. Il pourrait peut-être aller se pogner un petit lièvre à un moment donné. Mais c'est très... Si je fossilisais un panda géant, là, puis je me mettais une coupe d'affaires, puis là, je l'identifiais 115 millions d'années, là, n'importe quel biologiste aurait tendance pas à dire qu'il bouffait du bambou, mais qu'il devait bouffer d'autres animaux. Okay? Ça, il faut faire attention comme quoi que notre constatation actuelle des choses fait pas en sorte que ça veut dire automatiquement que c'est pas possible de faire autrement. Il y a des animaux actuellement qui font autrement, comme le panda géant. Il y a plusieurs cas. Tout à fait, tout à fait. Exactement. Il va manger. Sa dentition va l'aider toutefois à casser des végétaux plus rigides, des arbustes ou des. Il va être capable d'escraper, il va être capable de casser des mâchouillés, je sais pas. Un bambou, là, c'est filamenteux, ça se casse, whatever. Le point, l'autre chose, c'est que souvent c'est arrivé le cas en nature puis en zoo, OK, où est-ce que des animaux carnivores, pour mille raisons, ont varié leur diète vers une diète végétarienne, OK, puis étaient capables de subsister là-dessus. Des lions l'ont fait, OK, dans des conditions, dans des conditions de captivité, ça s'est fait, OK. C'est possible. C'est difficile si ton estomac a été naturellement, la sélection naturelle a fait en sorte que ton système digestif s'est habitué à une certaine forme de nourriture. C'est sûr que c'est difficile de revenir en arrière, mais ça a été possible dans des cas, des fois, des cas anormaux. Puis même en nature, c'est vu des animaux, des prédateurs qui doivent par moment aller vers des fruits ou d'autres trucs parce qu'ils manquent de nourriture. C'est pas l'idéal pour eux, mais ils survivent. Pour moi, c'est juste c'est une réminiscence que c'est possible. Tu sais, c'est possible. Maintenant, c'est sûr, faut pas oublier qu'après 6000 ans de permission de manger ou 4-5000 ans des permissions de manger des animaux puis de t'habituer à ça, tout le système s'habitue, on s'entend. Mais bon. Faut quand même mentionner ça parce que c'est pas si simple que ça. Puis je vous dirais comme c'est ça. C'est vraiment la dentition qui est comme l'élément qui nous gosse. Parce qu'autrement, je veux dire, si c'est pas de la dentition, moi, tu sais, je veux dire, je peux arrêter de manger de la viande, là, personne va être impressionné, là, j'ai pas de l'air d'un carnivore plus qu'un autre, tu sais, ça se fait. Mais il y a bien des animaux que c'est la même affaire aussi, tu sais. Je veux dire, le moustique qui pique un être humain, il peut toujours bien aller piquer une fleur, là, ça me dérange-tu, tu sais, je veux dire, c'est pas grave, tu sais. C'est juste qu'on a beaucoup l'image du carnivore. Puis on pourrait en sortir beaucoup d'autres animaux qui mangent, qui sont très, vont manger des fruits, entre autres des fruits, je veux dire, c'est cool d'avoir des canines quand tu manges des fruits ou des grosses noix, des trucs, là, tu sais, pour faire éclater, tu sais, je veux dire, c'est pas nécessairement du déchiquetage puis de la lacération de viande tout le temps. Mais c'est ça que nous, on a vu depuis qu'on est sur la planète, c'est qu'on associe l'un avec l'autre tout le temps, là. Oui, Esther?
Mm-hmm.
Mm-hmm.
Mais c'est pas ça, c'est juste après
Tout à fait.
Quand le péché est avant,
il était
végétarien, c'était facile de manger de la bouffe,
ça faisait partout. Mm-hmm.
Après
le péché, Dieu m'a dit ça, maintenant ça va être difficile pour toi de tirer ta nourriture du sol. Mm-hmm. Et continuer à manger ta nourriture du sol. Mm-hmm. Et après, Dieu lui a dit, je te donne tous les animaux comme nourriture. Tout à fait. D'ailleurs, ce verset-là, lisons-le tant qu'à être là-dessus, deux secondes, là. J'avais le verset à côté, pas loin. Nourriture originelle, Genèse 9:3, Dieu parle à Noé et à sa famille, « Tout ce qui se meut et qui a vie vous servira de nourriture. Je vous donne tout cela comme l'herbe verte. » C'est la première fois que Dieu permet ça. Est-ce que ça veut dire que des êtres humains ont péché avant puis ont commencé? C'est bien possible. Je veux dire, on va voir toute la descendance de Caïn qu'on avait pas mal rien à foutre de l'Éternel, OK? C'est que, ça veut-tu dire? Maintenant, en même temps, pensez-y, quand t'as jamais vraiment touché à ça, c'est comme tabou, là, je veux dire, tu vas passer pour un extraterrestre de t'essayer sur un lièvre, là. C'est que, tu sais, peut-être que même, d'avoir la permission de Dieu, ça, ok, on va s'essayer. Si t'as tout le temps vécu à manger du gazon, ben, là, je dis gazon, des fruits, là, on s'entend. Tu sais, il me semble, tu regardes un animal, c'est pas attrayant. Ok, c'est la première chose que je veux juste mentionner. Ça veut pas dire que c'est pas arrivé avant le déluge, mais la permission pour les gens qui invoquaient l'Éternel puis qui étaient soumis à Dieu, la permission a été donnée seulement après le déluge. C'est certainement que ça s'est fait juste après. Certainement. Certainement qu'à ce moment-là, même tout ce qui est du métabolisme changeait. Là, on n'avait plus la couche d'eau, on n'avait plus la facilité de s'approvisionner. Il y a beaucoup de choses. C'est que les animaux devenant une source de nourriture étaient certainement quelque chose de positif. Ça allait-tu aider quand tu es dans des environnements plus froids? Ça allait-tu aider avec le fait que tu n'as plus la pression comme avant atmosphérique parce que tu n'as plus la couche d'eau? Je veux dire, il y a plein d'études à faire certainement là-dedans. Mais oui, certainement que Dieu, il savait ce qu'il faisait. À savoir si les animaux avaient commencé à faire de la prédation avant que cette permission-là arrive. Ça, c'est pas clair dans le texte. Une chose qui est claire, c'est qu'autant dans Genèse 9, Dieu instaure un genre de gouvernement civil ou un genre de système de justice conséquente. Il dit même, je vais demander le sang à l'animal qui t'attaque, qui tue un être humain dans Genèse 9, on va y arriver éventuellement. Il dit, l'animal qui attaque l'être humain, puis l'homme qui tue un homme, son sang sera demandé comme l'animal qui tue un homme. C'est comme si cette possibilité-là était rendue soit d'actualité ou davantage d'actualité qu'il allait avoir une inimitié entre l'animal puis l'être humain, puis c'était même possible qu'un animal tue un être humain. Puis là, Dieu dit, donc est-ce que là, il y a une idée que l'animal, s'il peut tuer un être humain, mais il peut sûrement en tuer un autre. Okay? Mais là, Dieu dit carrément même qu'il allait avoir une conséquence pour l'animal. Là. On se devance un peu, là, mais je vais quand même... Ça ne veut pas dire qu'il va le manger non plus. C'est pour ça que je dis que c'est pas clair quand est-ce que les animaux ont commencé à se manger entre eux, mais c'est sûr que si les humains ont eu la possibilité après le déluge, mais les animaux ont sûrement suivi le pas si ce n'était pas déjà le cas. C'est ça. Si on va y venir, vous me devancez, mais c'est clair que Dieu a donné des habits de peau aux êtres humains. Oui, tout à fait. Et je vais juste quand même vous lire le début du chapitre 9. Le Dieu redit à Noé, « Soyez féconds, multipliez-vous et remplissez la terre. » On repart à zéro, là. Verset 2, vous serez maintenant un sujet de crainte et de terreur pour tout animal de la terre. C'est comme si maintenant il y a quelque chose de spécial qui se passe, qui n'était pas nécessairement le cas. Maintenant, il va y avoir une inimitié entre vous et les animaux. Vous allez être un sujet de crainte et de terreur. Donc, les animaux, autant que vous, vont essayer de se défendre, puis vous allez essayer de vous défendre. OK? Pour tout oiseau du ciel, pour tout ce qui rampe sur le sol et pour tous les poissons de la mer, ils sont livrés entre vos mains. C'est que le Dieu, maintenant, il donne comme une permission. Là, vous allez avoir le droit d'en vous en servir plus que juste pour tirer une herse puis labourer la terre. Tout ce qui rampe et qui vit vous servira de nourriture, je vous le donne comme je l'ai fait des végétaux. Pourtant, vous ne mangerez pas de chair avec sa vie, c'est-à-dire avec son sang. Donc, il spécifie qu'il va falloir que ça soit tué, vidé de son sang, c'est bon. Il y a des questions de santé aussi là-dedans. Mais aussi, je réclamerai votre sang, c'est-à-dire votre vie, je le réclamerai à tout animal. Okay? Et je le réclamerai à chaque homme la vie de l'homme qui est son frère, celui qui verse le sang de l'homme par l'homme, son sang sera versé, car Dieu a fait l'homme à son image. OK? Et vous, soyez féconds, multipliez-vous, peuplez la terre, multipliez-vous sur elle. Mais il dit aussi qu'il va réclamer, c'est ça que je vais soulever au verset 5, il va réclamer à la vie à tout animal aussi, si un animal aussi a haute la vie d'un être humain. Et là, il y a même une idée que Dieu est en train d'instaurer une forme de... Il permet à l'être humain d'exercer une forme de justice sociale, un gouvernement civil, si on veut, parce que c'est qui allait gérer. Si tu tues, tu te fais tuer, mais Dieu est en train de donner à l'homme cette permission-là. Mais là, on se devance un peu. Je voulais juste aller... C'est intéressant le commentaire que tu viens de faire, Karine, sur le fait que même dans des peuples plus récents, ou les peuples des Amériques, qu'on connaît historiquement et qu'on connaît aussi encore aujourd'hui, et même au niveau de l'alimentation, ça va différer dépendamment si tu habites dans des endroits plus adverses, plus reculés, plus nordiques, où de toute façon la végétation est déjà plus difficile à, je veux dire, des fruits, etc. Il n'y a pas grand-chose, il reste des animaux, mais là tu te nourris plus, même dans leur alimentation, les peuplades amérindiens plus au nord allaient se nourrir davantage de poissons ou d'animaux. C'est que ça, c'est intéressant, c'est clair qu'après le déluge, vous comprenez bien qu'il allait avoir des peuples qui allaient s'installer dans des régions un peu plus hostiles, hein, parce que pas tout le monde Avec la tour de Babel, ou, je dirais plus avec la tour de Babel dans le fond, parce qu'après le déluge, j'étais juste 8 personnes. Mais après la tour de Babel particulièrement, je veux dire, tu t'installes un peu partout, puis tu finis par t'ajuster à ton environnement aussi. Oui, oui, Hélène, je reviens à toi, Bertrand, excuse-moi. On se devance, c'est bien, je vais y arriver, mais c'est une bonne question. Pourquoi? Donc, oui, c'est une bonne question. Mais je vous pose la question, justement, là. Je pose la question. Non, c'est ça. Mais regardez, je vous lance le. D'ailleurs, en passant à Abel, c'est celui qui était berger, là. Caïn, c'est celui qui a amené des fruits, hein. C'est l'offrande de Caïn qui n'a pas été. Oui, exactement. C'est pour ça que je vous lance la réflexion. Dieu n'avait pas donné du tout la permission qu'on se nourrisse des animaux avant le déluge. Et Dieu, les gens se nourrissaient strictement de végétaux, de fruits, etc., de noix. Puis on arrive à l'histoire de Caïn et Abel. D'un coup, on apprend qu'Abel est berger. Puis là, si on est des premiers enfants d'Adam et Ève, qu'est-ce qui fait être berger? Ça sert à quoi cette histoire-là? Je veux dire, c'est-tu des moutons qui vont m'aider à cultiver le sol? Fait que là, tu sais, bon. Puis là, c'est pas plus, tu sais, je veux dire, à ce point-là, est-ce qu'il allait s'en servir? Pourquoi? Je vous lance la question. Puis pourquoi tout d'un coup, Caïn, lui, il a amené des fruits, sirop, lui, les fruits, c'est correct? C'est pour ça que je vous dis, réfléchissez-y. C'est une bonne question. Réfléchissez. Il y a de quoi qui nous manque, on dirait, comme information, que tout d'un coup, il y en a un qui cultive la terre, puis ça me semble que c'était ça qui était demandé, puis l'autre, il est berger de moutons, mais ça sert à quoi? Je vous lance, on a des belles pistes de réflexion pour ces réponses. Mais je veux pas des réponses tout de suite, là. Je veux juste vous réfléchir cette semaine. Pensez-y, puisqu'on est en avant de nous-mêmes. Mais c'est une bonne question. Une chose est sûre, c'est qu'Abel n'était pas berger parce qu'il bouffait de l'agneau. Oui, tout à fait. C'est ça. C'est-tu le premier qui a fait ça? Tu es un animal, Abel? Mais dans le texte même, on pourrait savoir son recul dans la Genèse.